maintenant, je vous invite à trouver dans vos Bibles Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Alors je suppose que vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe actuellement dans la région du Moyen-Orient. Si vous avez soit un journal, soit une télévision, ben vous aurez du mal à ne pas savoir ce qui se passe, tellement c'est couvert par les journalistes. Mais la question, c'est comment réagissons-nous face à ce qui se passe? Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est juste embêté parce que l'essence coûte un peu plus cher? La semaine dernière, on s'est posé une question importante et on a vu l'importance de se poser la question: quelle différence est-ce que ça fait dans ma vie d'être chrétien? Si je regarde ma vie, est-ce que je vois que je suis chrétien? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce que ma vie aurait été, à ce que j'aurais été si je n'étais pas chrétien? Est-ce qu'on voit que Dieu transforme ma vie? On va donc regarder ce matin comment, en tant que chrétien, on doit réagir face à ce qui se passe en ce moment, parce que Jésus nous montre qu'en tant que chrétien, nous pouvons et même nous devons réagir autrement devant de telles situations par rapport au monde. Et puis, on va voir également qu'une des choses qui définit notre manière de réagir, c'est justement, comme on a vu la semaine dernière, l'attente de notre époux, que la Bible nous dit va venir pour ce moment des noces de l'agneau avec son Église. Donc ce matin, lisons ensemble tout le chapitre 24 de Matthieu. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus enseigne à ses disciples concernant la fin des temps parce que ce qui est évident quand on lit ce récit, c'est que les disciples, étant des êtres humains ordinaires, avaient une vision limitée de leur situation. Verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Eux, ils sortaient du temple tellement impressionnés de voir cette construction. Alors, on peut certes les comprendre. Si vous imaginez cette construction qui dominait la ville de Jérusalem, il y avait de quoi être impressionné d'un point de vue humain, n'est-ce pas? D'autant plus, si vous regardez ces toutes petites taches en tout en bas, ce sont des êtres humains, comparés à la taille de cette construction. Donc, surtout pour des simples pêcheurs qui vivaient près du lac, on peut imaginer qu'aller à la grande capitale de Jérusalem, voir une construction pareille qui était faite sur le plateau en haut du mont Sion, ça avait de quoi impressionner. En plus, pour eux, quand ils regardaient, c'était plus ou moins flambant neuf. En Jean chapitre 2, il y a cette discussion entre Jésus et les Juifs autour du temple. Quand les Juifs lui dirent « Quel miracle nous montres-tu ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Jean nous dit « Mais bien sûr, il parlait du temple, de son corps, quand il a dit cela. » Mais il y avait donc de quoi être impressionné, de quoi attirer l'attention de Jésus sur ce temple, mais pas simplement d'un point de vue d'architecture, mais aussi compte tenu de leur vision et de leur compréhension théologique de ce que représentait cette construction. Alors, quand les Juifs disaient à Jésus « il a fallu 46 ans », en fait, les 46 ans représentaient la dernière amélioration de ce temple. Ce temple-là, c'était le temple qui avait été reconstruit après l'exil. Donc, quand les Juifs sont revenus de Babylone vers Jérusalem, il y a ce moment où ils construisent un temple, mais... Donc, vous savez qu'à cette époque, Israël n'était plus un pays indépendant. Même si les Juifs étaient retournés à Jérusalem, à partir du moment de l'exil, ils avaient toujours été sous des autorités étrangères. Donc, à l'époque du Nouveau Testament, c'était l'Empire romain. Et l'Empire romain avait mis en place donc un royauté local, leur gouvernant de préférence locale, comme quoi l'être humain finalement ne change pas. Les choses qu'on voit aux infos se sont toujours pratiquées. Les Romains disaient « Maintenant, c'est nous les chefs, donc nous allons trouver quelqu'un du coin que nous pouvons mettre en place, qui sera plus enclin à nous servir, à nous obéir. » Et donc, ils avaient choisi la famille du roi Hérode, qui, lui, n'était pas vraiment juif, il était plutôt descendant d'Édom, donc de la famille d'Ésaü. Et donc, pour se faire bien voir de la part des juifs, il a dit, ben, je vais investir dans une grande construction sur le monde du temple, je vais rendre justement ce temple bien plus impressionnant. Et donc, on voit qu'effectivement, les disciples étaient bien impressionnés par cette construction. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler ce qu'était ce temple. Pourquoi le roi Hérode disait, si je fais reconstruire le temple pour eux, ça va me faire gagner des points auprès de la population. Ils vont m'admirer, ils vont m'obéir et m'accepter. Ceux qui ont suivi l'étude biblique dans le livre d'Ésaïe, vous savez à quel point la destruction du temple de Salomon était un traumatisme pour le peuple juif. Non simplement parce que eux, ils partaient en exil à Babylone, non simplement parce que ce grand bâtiment avait été détruit avec le reste de la ville de Jérusalem, mais surtout parce que le temple de Salomon, c'était l'endroit où Dieu était venu s'installer à Jérusalem, au milieu de son peuple. Dieu avait dit, j'ai choisi cette ville, j'ai choisi d'habiter dans le lieu très saint de ce temple pour être au milieu de mon peuple. Donc, le peuple juif se demandait, alors si le temple n'est plus, est-ce que ça veut dire que le royaume de Dieu en Israël n'est plus? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus là pour nous et avec nous? Et donc pour eux, l'idée d'avoir pu reconstruire le temple de Jérusalem était très importante. D'autant plus que Dieu avait promis, donc à travers Ésaïe, entre autres, en disant « Je n'ai pas fini avec vous. Vous allez revenir de l'exil. » Mais, justement, ces derniers mois, dans l'étude biblique, on a suivi ces chapitres où il dit « Non seulement vous allez revenir à Jérusalem, mais moi j'ai en vue un avenir glorieux pour Jérusalem. Jérusalem va devenir le centre du monde. Toutes les nations viendront me chercher à Jérusalem et c'est de là que je gouvernerai la terre entière. » Et il avait dit, par exemple, dans Malachie 3, verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Quand ce temple a été reconstruit après l'exil, Dieu donne une prophétie précise en disant « Moi, je vais venir dans ce temple. » Lors de la présentation de Jésus, Siméon et Anne ont dit, ça y est, Dieu accomplit sa promesse. Le Seigneur apparaît dans son temple, comme il l'a dit. Donc on peut comprendre que pour les disciples de Jésus, non seulement ce bâtiment a été impressionnant sur le plan architectural, mais eux, ils se disaient, ça y est, c'est le moment que nous attendons depuis des siècles. C'est le moment où Dieu, le Seigneur lui-même, va régner depuis ce temple sur la terre entière. C'est le moment où nous allons voir l'établissement du royaume de Dieu. Mais Jésus, au lieu de les encourager, de les animer, de dire, vous avez tout à fait raison. Il leur fait une annonce qui, du coup, doit être terrible. Vu tout ce que eux, ils ont en tête quand ils signalent à Jésus la grandeur, la splendeur de ce temple. Parce que Jésus leur dit, vous voyez tout cela? Moi, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'était effectivement le cas. La seule chose qui reste à Jérusalem de nos jours pour le peuple juif, c'est ce mur de lamentation qui en réalité ne faisait même pas partie du temple. C'était un mur pour retenir la terre sur laquelle le temple a été construit. Tout le reste, plus aucune trace. Plus rien qui ne reste de ce temple que les disciples disaient à Jésus, « Ça y est, regardez ce temple glorieux d'où tu vas pouvoir régner. » En réalité, les disciples n'avaient pas compris encore le plan de Dieu, n'avaient pas compris ce que Dieu allait faire. Les disciples n'avaient pas compris que oui, Jésus va régner, que le royaume va être établi, que Dieu a effectivement ce plan merveilleux pour Jérusalem. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que ce n'était pas encore le temps dans le plan de Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est que ce n'est toujours pas le temps dans le plan de Dieu pour régner sur son royaume. Il n'est toujours pas revenu. Nous savons peut-être quelques éléments de plus que les disciples lorsqu'ils ont eu cette conversation avec Jésus, mais justement, grâce à ce qu'ils ont discuté avec Jésus et grâce à ce que Dieu leur a révélé par la suite et que eux, ils ont pu écrire pour nous. Mais finalement, nous, ce matin, nous nous trouvons toujours dans cette même attente que eux, ils avaient lorsque Jésus a en quelque sorte fait dégonfler leurs espoirs. Nous nous trouvons toujours dans ce temps d'attente décrit dans le verset 3. Jésus qui s'est assis sur la montagne des Oliviers, donc juste en face du temple de Jérusalem. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc nous avons besoin des mêmes conseils que Jésus a donnés à ses disciples. Devant la destruction future de ce temple, Jésus leur a donné des conseils pour savoir attendre. Nous aussi, vu que nous attendons toujours la même chose, on a besoin de savoir, de recevoir ces conseils pour savoir comment réagir face aux choses qui se produisent dans notre monde, même actuellement. Et donc, premier conseil que Jésus donne à ses disciples, c'est devant ces situations, devant ces choses, gardez-vous d'être troublés. Ne laissez pas ces choses vous troubler, vous inquiéter, vous faire peur. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous vivons dans un monde où faire peur est vendeur pour les médias, où on joue sur les incertitudes, sur les inconnus. Les journaux préfèrent se concentrer généralement sur les mauvaises nouvelles que sur les bonnes, parce que les mauvaises nouvelles vendent mieux que les bonnes nouvelles. Ces peurs sur lesquelles on joue sont souvent fondées dans le fait qu'on ne sait pas ce qui va se produire. Et donc, on essaie d'une part de combler le trou en sortant toutes sortes de théories quant à ce qui va se passer, et en même temps de jouer et de créer et renforcer ce sentiment d'incertitude et donc de peur. D'ailleurs même, tout le fonds de commerce du locutisme est basé sur cette peur de l'inconnu, sur cette peur de ne pas maîtriser la situation, de ne pas savoir ce qui va se produire. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas savoir ce qui va se produire précisément. Même en tant que chrétien, nous ne pouvons pas savoir du jour au lendemain exactement ce qui va se faire. Dans Jacques chapitre 4, verset 14, Jacques écrit à des chrétiens en disant « Vous qui ne savez même pas ce qui arrivera demain. » Il faut accepter que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir, nous ne savons pas ce qui va se produire. Dans le verset 36, Jésus dit « Même en ce qui concerne mon retour, il y a un certain inconnu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc en tant que chrétien, ne tombons pas dans le panneau de suivre tous les soi-disant prophètes qui vont venir avec leur théorie concernant le moment du retour de Jésus. Parce que Jésus dit, vous ne le savez pas, vous ne le saurez pas. Il n'y a que le moment où le Père va dire, c'est maintenant, et qu'il va le révéler. Mais même sans savoir précisément ce qui va se passer, Jésus nous révèle l'image globale, nous permet de savoir vers où vont la situation du monde. Il nous montre que d'un côté, la vie continuera comme d'habitude. Verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Vous avez peut-être remarqué, en plein milieu de toutes les théories concernant les catastrophes qui se produisent, les journalistes passent à une page publicitaire pour nous vendre de la nourriture, des voitures, tout ce qu'on veut. La vie continue. Donc d'un côté, la vie continuera comme d'habitude. De l'autre, la Bible nous révèle qu'en même temps, des guerres, des catastrophes s'intensifieront, en particulier autour d'Israël. Si le monde peut être surpris par le fait que cette région prenne une telle importance et apparaisse tout le temps dans les infos, en tant que chrétien, cela ne devrait pas nous surprendre, puisque la Bible nous montre que l'histoire se focalisera de plus en plus sur cette région jusqu'au moment du retour du Seigneur. Donc en tant que chrétien, on ne devrait pas être surpris par ce genre d'événement. Quand les choses ont l'air de s'empirer, ça ne devrait pas nous troubler. Puisqu'on n'est pas surpris, il n'y a pas raison que cela nous inquiète. D'autant plus que nous savons comment l'histoire va se terminer. Vous savez, souvent, les producteurs de films et de séries disent qu'il faut éviter à tout prix ce qu'ils appellent les spoilers, où on apprenne la fin avant d'avoir regardé la série ou le film. Parce qu'il dit, si les gens savent comment ça se termine, ben, il n'y aura plus de suspense. On ne va plus pouvoir jouer sur leur peur, sur leur intérêt. Parce que s'ils connaissent la fin, ben, ça a retiré tout l'intérêt, tout le souci. Le Seigneur nous a montré comment sera la fin. Il a montré que donc, effectivement, il y aura une guerre internationale contre Israël, que toute la nation sera défaite, que même la ville de Jérusalem sera sur le point de tomber, et que là, Jésus va revenir. Jésus reviendra d'un côté pour son Église. Ce sera ce moment où l'époux va venir chercher son épouse. De l'autre côté, nous savons qu'il interviendra pour sauver ce qui reste d'Israël. Donc nous connaissons la fin. Donc, pas raison d'avoir peur, parce que nous savons où nous allons. Il n'y a plus de surprise. En plus, nous savons que ce Dieu qui va le faire, il est tout puissant. Donc personne ne pourra résister. Comme disait Jésus, il faut que ces choses se produisent. Dieu est souverain. Les hommes peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent, avoir l'impression que c'est eux les maîtres de la situation. Mais finalement, c'est Dieu qui est en train de produire son plan pour que Jésus revienne. Donc, en tant que chrétien, au lieu de céder à la peur lorsque nous voyons de telles situations, de tels événements, simplement nous pouvons être là en train de se dire, ben, je vois que le plan de Dieu avance. Dans Luc 21, verset 28, Jésus dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Nous, pas besoin d'avoir peur en regardant ces choses, ni de nous inquiéter. Nous pouvons nous redresser, lever nos têtes, parce que notre délivrance approche. Donc Jésus dit à ses disciples, gardez-vous d'être troublés par ces choses, au contraire, veillez et persévérez. Dans Romains 13, l'apôtre Paul parle également de la fin des temps, dans les versets 11 à 14. Mais ce qui est intéressant quand il en parle, ce n'est pas dans un chapitre où il enseigne tout sur la fin des temps, sur l'eschatologie. En fait, c'est en plein milieu de l'enseignement sur le comportement que nous devons avoir en tant que chrétiens. Il dit, voilà comment un chrétien devrait se comporter. Et puis verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il dit, voici comment un chrétien se comporte. Et si vous savez dans quel temps nous vivons, vous savez à quel point il est important de se comporter de cette manière. Veillez sur vous. Persévérez jusqu'à la fin. C'est vrai qu'en tant que chrétien, nous devrions toujours nous comporter en tant qu'enfants de Dieu, qui reflètent la nature de leur Père. Comme citoyens de son royaume, qui le reconnaissent comme Seigneur et qui donc obéissent à ses instructions, comme représentants de Dieu et de son royaume, qui ont la mission de révéler au monde comment est notre Dieu. Sauf que, en tant qu'être humain, nous avons tendance parfois à nous fatiguer de ces choses, à oublier ce que nous devons faire. D'autant plus que notre ancienne nature, notre chair, a souvent tendance à chercher à reprendre le dessus. Jésus dit que ce genre d'événement devrait nous rappeler à l'ordre. Lorsque vous voyez ces choses commencer à arriver, il nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ce n'est pas encore la fin, c'est le commencement. Mais lorsque vous voyez ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Cette manière de vivre, dit Paul, importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Quand on regarde ces événements qui s'accélèrent autour d'Israël, on ne devrait pas prendre peur devant ces choses ou permettre au monde de nous inquiéter. Mais nous devrions au contraire se dire le plan de Dieu avance, donc je n'ai plus le temps de rigoler. Je n'ai plus le temps de jouer à être chrétien. Je dois me réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Difficile pour nous d'imaginer quel effet toutes les prophéties concernant la fin des temps a pu avoir sur les chrétiens il y a 150, 200, 300 ans. L'idée qu'il puisse avoir toutes les nations rivées sur Jérusalem et sur son sort, qu'il puisse avoir suffisamment d'intérêt pour qu'une armée internationale voudrait attaquer Jérusalem, ça devait sembler inimaginable, d'un autre monde. Cela faisait des siècles que plus personne ne s'intéressait à Jérusalem et à tout ce territoire. Dernière fois qu'on avait parlé d'une guerre contre Jérusalem, c'était les croisades des siècles auparavant. Pourquoi quelqu'un voudrait se battre pour un bout de désert au fin fond de l'Empire ottoman qui n'intéressait plus personne? Nous, on ne peut plus réagir de la même manière. Nous, nous voyons les choses s'accélérer depuis la recréation de l'État d'Israël. Pour nous, on n'a même pas besoin de pousser l'imagination pour voir la réalisation des prophéties concernant la fin des temps. Donc Paul nous dit, si tel est le cas, si vous vous rendez compte dans quel temps vous vivez, cela importe d'autant plus. Vivre de la manière qui est fidèle à Dieu, qui est fidèle à ses enseignements, qui représente la raison pour laquelle il vous a sauvé. Ce comportement chrétien est d'autant plus important puisque la nuit est avancée et le jour approche. Donc, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Plus les événements dans le projet de Dieu avancent, plus cela devient urgent. Donc, en tant que chrétien, lorsque nous voyons les mêmes choses que le monde voit sur ses écrans et que nous voyons ces événements qui ont lieu autour d'Israël, d'une part, ne cédons pas à la peur. Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. C'est le moyen pour que mon retour soit préparé. Mais laissons ces événements nous rappeler à l'ordre. Nous rappeler à quel point il est urgent pour nous d'être sérieux avec le Seigneur et de vivre réellement en tant qu'enfant de Dieu. De laisser Dieu transformer notre caractère, de devenir des enfants obéissants, sachant qu'il revient bientôt pour établir son règne et qu'effectivement, ce jour-là, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Puisque les uns se disent, il y a tout le temps, c'est pas important. Comme lors de l'époque de Noé et du déluge, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Jésus dit, vous ne réagissez pas de la même manière. Je vous donne toutes les infos qu'il faut pour ne pas être troublé, mais pour veiller et persévérer, sachant que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé.